C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, et si la période agitée que nous traversons n'était pas une crise, c'est-à-dire une mutation soudaine et violente, mais une métamorphose? Les limites planétaires que nous ne cessons de franchir, comme le changement climatique, l'acidification de l'océan, l'utilisation des sols, nous obligent à repenser nos manières d'habiter la Terre si nous voulons vivre dans un monde juste et soutenable, si nous désirons tout simplement bien vivre. C'est justement pour réfléchir sur ces questions que pendant 3 jours, des chercheurs, des représentants d'entreprises, d'ONG et des citoyens se sont réunis sur le campus universitaire de Grenoble, dans le sud-est de la France. Le Forum international pour le bien vivre à Grenoble était organisé par la ville de Grenoble, l'université Grenoble-Alpes et le CCFD Terre Solidaire.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Céline Whittaker.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de FAIRE, le forum pour d'autres indicateurs de richesse. Alors, en quoi il y a un lien entre d'autres indicateurs de richesse et le bien-vivre ?
Alors, la question, c'est de savoir, en fait, quels sont les indicateurs de richesse qui régissent, qui orientent le cap vers nous, vers où nos sociétés avancent. Et aujourd'hui, le principal indicateur, les principaux indicateurs qui sont utilisés, ce sont des indicateurs économiques, et en particulier le fameux PIB, Produit Intérieur Brut, qui mesure de façon très, très simplifiée, on va dire, la valeur ajoutée ou encore plus simplement la richesse produite par les entreprises et qui sont échangées avec de l'argent, la richesse monétaire produite par les entreprises. Alors pour comprendre pourquoi c'est problématique, il faut comprendre que le PIB, donc, il mesure pas, il regarde pas ce qu'on produit, c'est-à-dire tout ce qui produit des échanges monétaires, c'est bon pour le PIB, et il regarde pas la façon dont ces produits, et donc en particulier la façon dont ces productions respectent les humains, répondent à des besoins des humains et surtout respectent l'environnement. En fait, le PIB et les indicateurs économiques en général ne regardent que la quantité produite et les échanges monétaires. Alors c'est là où il y a un peu où il y a le problème principal, c'est-à-dire que ces indicateurs, ils ont été construits au moment de la Seconde Guerre mondiale, juste avant, juste après, où effectivement l'enjeu sociétal, l'enjeu de la société, c'était vraiment la reconstruction et l'industrialisation de la société. Mais aujourd'hui, en fait, ces indicateurs sont plus adaptés aux questions majeures de nos sociétés. On a bien vu que la croissance du PIB, la croissance monétaire, ne se traduit pas en fait par une amélioration de la qualité de vie. Il y a eu un décrochage en fait entre croissance et qualité de vie au début des années 80, on va dire à peu près. Et puis aujourd'hui, il y a plus de... Les questions environnementales sont évidentes en fait. Tout le monde est conscient des questions environnementales. Donc le principal problème avec le PIB, c'est que le système orienté par le PIB, il est organisé autour de l'idée d'une croissance infinie. Et la croissance infinie, elle n'est pas possible du point de vue environnemental et elle ne sert à rien.
Alors, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut que ça change, mais ça fait longtemps que vous travaillez et que d'autres travaillent sur ce sujet. On se souvient de la commission Stiglitz, du nom de son président, l'économiste américain, la Joseph Stiglitz, qui avait donc fait un rapport très critiqué, d'ailleurs, par FAIRE, l'organisation que vous co-présidez. Mais il y a beaucoup de réflexions depuis de nombreuses années pour changer ces indicateurs, mais ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup.
C'est ça. FAIRE a été créé effectivement en 2008. On était en pleine crise financière et ça devenait à peu près évident, ou en tout cas, on ne pouvait pas ne pas repenser en fait la façon de mesurer la richesse et le progrès. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy avait appelé la commission pour la performance économique et le progrès social. Et donc, on ne pouvait plus ne pas regarder, ne pas imaginer d'autres indicateurs pour donner le cap, pour orienter nos sociétés. Et je vous raconte ça par rapport à la naissance de FAIRE, pour vous dire quelque chose qui me paraît primordial, c'est qu'à cette époque, on s'était dit, les indicateurs, et donc les façons de mesurer le progrès de nos sociétés, c'est pas qu'une affaire d'économistes, et en fait, ça nous concerne tous. Et FAIRE a été créé en parallèle à la commission Stiglitz pour dire d'une fois ce que vous avez bien repris, c'est-à-dire en fait, depuis les années 70, il y avait des chercheurs qui cherchaient, qui réfléchissaient à la question des modèles de développement et des indicateurs qui vont avec. il y avait des territoires qui expérimentaient, et donc il était important de prendre exemple, en tout cas de s'inspirer de ce qui existait, et pas seulement de quelques économistes enfermés dans une chambre. Et surtout, en fait, il y a toujours besoin de dire que les indicateurs, c'est notre affaire à tous. Parce qu'en fait, au fond, en fait, cette question des indicateurs, ça veut dire, en fait, il s'agit en fait de décider ce qui compte pour nous, ce qui est important, ce qui compte, ce qui a de la valeur et la façon dont on le compte, dont on compte.
Alors on pense évidemment au bonheur intérieur brut du Bhoutan, qui est souvent cité comme un exemple d'indicateur différent du PIB.
Et c'est intéressant de s'attarder un petit peu sur l'exemple du Bhoutan. Le Bhoutan a dans sa constitution en fait l'idée que la recherche, que l'objectif de tout gouvernement est la recherche du bonheur pour son peuple. Ils avaient et ils ont toujours un certain modèle de développement qu'ils essayent de développer et de reproduire dans leur pays. Et en fait, ils se sont dit, en fait, si on n'a pas un indicateur qui montre ce qu'on veut, on va se faire laminer, on va se faire colonisés par les modèles de développement des sociétés occidentales. Donc on a besoin d'avoir quelque chose avec lequel on puisse dialoguer avec les autres sociétés pour montrer que ce qui compte pour nous, c'est pas forcément la croissance économique, mais c'est tout ce qui fait le bien-être des populations.
Voilà, donc ça, on peut s'en inspirer largement. Il y a beaucoup d'écrits sur ce sujet. Et il y a beaucoup de réflexions en cours sur les indicateurs économiques. Il y a par exemple la théorie du donut, du nom du beignet américain en forme de rond avec un trou au milieu. Vous en avez peut-être déjà vu ou goûté. Cette théorie a été imaginée par l'économiste britannique Kate Raworth. C'est une nouvelle boussole pour l'économie qui permet de répondre aux besoins des personnes dans la limite de ce que la planète peut offrir. Géraldine Théry aime se définir comme une économiste écologique. Elle travaille, elle aussi, sur les nouveaux indicateurs de richesse depuis une quinzaine d'années. Elle est professeure d'économie à Bruxelles, en Belgique. Elle est venue au Forum à Grenoble pour présenter son travail sur la mise en place de l'économie du donut sur le territoire de la région bruxelloise. Elle est interrogée par Clémentine Métainier.
Alors cette métaphore, elle s'invite ici, à mon avis, parce que si vous imaginez le donut, c'est une forme de pneu, une forme de tore, on peut le dire de différentes manières. En tout cas, on a deux cercles imbriqués. Et cette métaphore des deux cercles imbriqués, elle fait référence à l'importance de lier substantiellement les enjeux sociaux aux enjeux environnementaux. Le cercle intérieur du donut représente un ensemble de seuils sur un ensemble de dimensions en deçà desquelles aucune société ne devrait se trouver, aucune personne ne devrait se trouver dans une société qui est digne de ce nom. Et le cercle extérieur du donut, lui, représente aussi des seuils, mais des seuils à ne pas transgresser, au-delà desquels on ne doit pas aller, au risque d'augmenter la probabilité de se trouver face à des problèmes de nature systémique. Et donc, pour vous donner concrètement des exemples, ce que Kate Raworth, la fondatrice du donut, appelle le plafond environnemental, on a le réchauffement climatique, on a la dimension du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité, de l'acidification des océans, des cycles du phosphore et de l'azote. Donc un ensemble multidimensionnel de problèmes environnementaux qui ne se réduisent pas à celui du climat. Et sur le plancher social, c'est-à-dire ce plancher en dessous duquel on ne veut pas aller, on a un ensemble de dimensions comme l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'énergie, au logement, la question des droits politiques, la question de l'égalité des genres. Il y a énormément de dimensions de l'accès à la santé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Et donc l'idée, c'est de se dire, maintenant, il faut laisser derrière nous cet objectif de la croissance dont on voit de plus en plus, et c'est bien étayé, qu'elle est de plus en plus inégalitaire, qu'elle ne parvient plus à contenir les inégalités comme elle a pu le faire historiquement durant les Trente Glorieuses, et dont on voit surtout qu'elle est corrélée, qu'elle s'accompagne d'un ensemble d'effets négatifs et dévastateurs du point de vue de l'environnement.
Et qu'est-ce qu'on met en œuvre de manière très concrète pour y répondre, pour tendre vers ce cercle vertueux ?
Alors on peut identifier deux types de démarches à mettre en œuvre. La première, d'abord, c'est de rendre compte de ses planchers et de ses limites à l'échelle des territoires. Et c'est ce qu'on a tenté de faire au niveau de Brussels Donut. On va tirer le portrait à Bruxelles, à la ville de Bruxelles. On va lui tirer le portrait, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre compte d'où elle se situe sur les aspects sociaux et sur les aspects environnementaux. Et on va le faire non seulement en se posant la question de ce qui se passe sur notre territoire pour notre territoire, mais aussi des effets que peuvent avoir nos comportements et les stratégies politiques d'un territoire sur le reste du monde, en tout cas au-delà de ses frontières. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de Brussels Donut avec ce portrait Bruxelles Donut qui avait déjà été fait, par exemple, à Amsterdam. Je pense qu'ils étaient pionniers en la matière. Mais après, la question, c'est quels sont les changements à mettre en œuvre? Comment on modifie nos systèmes de production, nos systèmes de consommation, les politiques publiques, l'urbanisation, les politiques de santé? Quels sont les leviers à mettre en œuvre? Quels sont les acteurs à embarquer avec nous? Et quel type de changement leur proposer? Alors, le donut n'offre pas du tout une solution clé sur porte. En revanche, il nous offre une méthodologie assez simple qui peut servir d'outil de réflexivité à un ensemble d'acteurs du territoire qui ont envie de mettre en œuvre ces changements. Et donc cette rencontre des administrations par le biais de l'outil du donut est déjà un pas extrêmement important dans la création, on l'espère en tout cas, on verra ce que ça donnera dans les années qui viennent, de politiques beaucoup plus intégrées, où l'environnement n'est pas pensé que pour lui-même, mais bien en relation avec les acteurs du territoire.
L'économiste Géraldine Théry est interviewée par Clémentine Métainier. Célina Whittaker, ce qui est intéressant dans cette théorie du donut, c'est qu'elle s'applique à un territoire. Là, Géraldine Théry parlait du territoire de la ville de Bruxelles. Et on tient compte des aspects environnementaux et sociaux, les deux à la fois.
C'est ça. En fait, l'image du donut est intéressante parce qu'elle met l'accent sur l'essentiel. Géraldine Théry a parlé des limites intérieures du donut, le plancher social, de la limite extérieure du donut, le plafond environnemental. Et en fait, du coup, le donut, il met l'accent, il nous permet de voir dans une même image la vie digne et la préservation de la planète. Et il nous permet de dire, en fait, que l'économie doit trouver sa juste place entre les deux. Kate Raworth, elle dit qu'entre le plancher social et le plafond environnemental, il y a ce qu'elle appelle un espace juste et sûr pour l'humanité. C'est-à-dire, en fait, un espace où on doit construire la vie en société pour assurer les besoins de tous dans les limites de la planète. Et c'est là où on voit bien que c'est l'économie doit trouver sa juste place, c'est de permettre à chacun de vivre, de répondre aux besoins de tout le monde, mais pas dans un objectif de production uniquement. C'est pas produire pour produire, c'est pour produire face aux besoins des gens et dans les limites de la planète. Alors ça nous permet, le donut, il permet de regarder le tout ensemble et il permet de se mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire, l'ensemble des habitants, les collectivités, les responsables politiques, les universitaires, etc. pour se dire en fait comment est-ce qu'on peut construire cet espace juste et sûr et quels sont les indicateurs, quels sont les outils pour regarder si on n'est pas ni en train de tomber dans le trou, ni de dépasser les limites de la planète. C'est important cette idée d'avoir, en fait, dans une même image, les deux aspects. Parce que la justice sociale et la justice environnementale, elles vont de pair. Et je pense que c'est important quand même de dire que ce sont, en fait, les personnes qui sont les plus précaires qui subissent le plus fortement l'impact des dérèglements environnementaux, que ce soit en termes d'exposition au risque, que ce soit en termes d'inégalité d'accès aux ressources, voilà, d'inégalité de santé. Ce sont les plus précaires qui ont un impact le plus fort des dérèglements et des problèmes environnementaux, alors que leur mode de vie, en fait, impacte bien moins le climat que le mode de vie des populations les plus aisées. Donc le donut, pour moi, c'est une image, une image qui permet de mettre tout ça ensemble, qui permet de se retrouver autour d'une table pour discuter comment est-ce qu'on va avancer pour construire cet espace juste et sûr pour l'humanité. Et si on y arrive, c'est tout bon.
Et vous trouverez sur Internet plein de moyens de fabriquer votre propre donut à l'échelle de votre territoire. C'est vraiment disponible. N'hésitez pas à aller chercher. Oui. Vous verrez, c'est très, très instructif.
Il y a beaucoup de travaux sur les indicateurs, sur des indicateurs sociaux, des indicateurs environnementaux. L'image du donut est vraiment en train de poindre comme la possibilité de mettre les deux en lien.
Voilà, je pense que c'est bien clair. Allez voir pour fabriquer le donut de votre territoire. Allez, on se fait une petite pause avec Big Sean et Kanye West. One man can change the world. They used to tell me. I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls that's pretty at everything.
Million dollar cribs, having million dollar dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing, that one man could change the world. That one man could change the world. All I wanted was $100 million and a bad chick. Imagine this, a Muslim nice, it felt like that I had it. Back on the mattress, staring at the ceiling, try connect the dots, but it's all making those attachments. I'm talking dreaming so hard, some nights it felt like draft day, you know. My stepbrother used to flip them bags outside the crib like it was trash day. No Kim K, but he bagged, yeah, yeah. But when you're getting fast money, slow down, don't crash. With all the drive in the world, swear you still need gas. Look, think about it. Close your eyes, dream about it. Tell your team about it. Go make million-dollar schemes about it. Success is on the way, I feel it in the distance. Used to look up at the stars and be like, ain't too much that's different. I be shining, they be shining. Get you one shot, don't you miss it. What you know by waking up every day like you on a mission? And I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope and it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls, it's pretty and everything. $1 million cribs, having $1 million dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing. One man could change the world. One man could change the world.
One man can change the world par Big Sean et Kanye West dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Nous parlons du Forum international pour le bien vivre qui vient d'avoir lieu à Grenoble, dans le sud-est de la France, avec notre invitée, Célina Whittaker, qui était responsable du programme de ce forum et qui est coprésidente de FAIR, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Alors c'est compliqué quand même, et c'est ce qui a dû ressortir, j'imagine, entre autres dans les discussions à ce forum, Célina Whittaker. C'est compliqué de réfléchir au bien vivre dans le contexte du changement climatique qui s'est de plus en plus sentir, de la disparition massive de la biodiversité, qui met juste en péril l'avenir de l'humanité, tout simplement, et puis de l'accroissement des inégalités partout dans le monde.
C'est compliqué, mais c'est absolument nécessaire. On est à un croisement, en fait. Les dérèglements climatiques et l'ensemble des atteintes à l'environnement et à la biodiversité nous montrent que si on ne fait pas quelque chose, on va aller droit dans le mur. Cependant, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout sur la planète, des gens qui essayent de faire autrement. Et donc l'objectif du forum, c'était aussi de prendre appui, de s'inspirer de tout ça pour continuer à avancer dans le sens d'un changement de modèle.
Alors, il y avait beaucoup d'intervenants à ce forum, nous allons en entendre plusieurs dans cette émission. Par exemple, selon le rapport de l'ONU sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, publié cette semaine, en 2021, 828 millions de personnes ont été touchées par la faim. C'est 46 millions de plus qu'en 2020 et 150 millions de plus par rapport à la période d'avant le Covid. Ça fait quasiment un humain sur 10. Nous nous éloignons donc de l'objectif que l'ensemble des pays membres de l'ONU s'était fixé, qui consiste à mettre un terme à la faim, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Or, pour Joaquín Dionisio Guzmán, qui était présent au Forum de Grenoble, la maîtrise de notre souveraineté alimentaire est justement la base de la dignité humaine. Il est venu du Guatemala pour présenter le travail qu'il fait avec son association Sirius, qui signifie Service juridique et social du Guatemala. Il a expliqué au micro de Clémentine Métainier.
Au sein de Serjus, nous travaillons sur le positionnement politique. Nous cherchons à reconstruire le tissu social avec différentes communautés. Notre objectif est la lutte pour la souveraineté alimentaire comme projet politique. Nous défendons aussi l'agroécologie comme un réel modèle de vie, l'économie communautaire, les circuits courts de commercialisation avec des associations de paysans, et nous développons une politique institutionnelle sur le genre. Enfin, nous voulons défendre et sauvegarder les pratiques ancestrales, notamment liées à l'ethno-vétérinariat.
En quoi le travail de la terre est nécessaire aujourd'hui pour l'émancipation des peuples et peut-être à plus grande échelle l'émancipation des peuples indigènes.
Debemos de recordar de que hubo un proceso de invasion en los territorios.
Il faut tout d'abord rappeler qu'il y a eu un processus d'invasion de nos territoires ici. Le travail que l'on fait autour de la souveraineté alimentaire vise d'abord à venir récupérer ces territoires pour les rendre aux femmes et aux paysans. Le travail que nous effectuons avec les populations de chaque communauté est de faire connaître leurs droits, notamment aux femmes et aux paysans, pour qu'ils puissent s'avancer. Nous sommes convaincus que les paysannes et les paysans sont les propriétaires des terres, car ce sont eux qui produisent les ressources pour eux et pour toute la population. Sur le thème de l'insécurité alimentaire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le Guatemala souffre de ce problème. Il y a des politiques publiques, mais elles sont orientées vers la sécurité alimentaire, ce qui veut dire que l'on parle exclusivement de l'accès à l'alimentation. Or, parler de souveraineté alimentaire, c'est faire un pas de plus et permettre à la population de décider de son propre modèle de production. Nous avons surtout de nouvelles menaces auxquelles nous devons faire face au Guatemala. L'introduction de semences transgéniques, les grandes entreprises multinationales qui dévient les fleuves et les cours d'eau pour leur production, les populations indigènes qui sont criminalisées car elles luttent pour leurs droits quand les entreprises accaparent les terres. Quand on parle des entreprises internationales, on parle de l'industrie minière. Il y a quelques années, une entreprise minière s'est installée et a laissé un lac de cyanure sur place. Le Guatemala est un pays avec beaucoup de diversité, une multitude de plantes, différents sols, beaucoup d'animaux et de ressources minérales. Et c'est ça qui intéresse les multinationales. Un autre problème auquel nous faisons face concerne les entreprises qui font de la monoculture de canne à sucre, de palmiers à huile, qui déforestent pour installer leur culture. Elles utilisent énormément de pesticides et dévient les cours d'eau pour alimenter leur production, sans parler de la production d'hydroélectricité et ses conséquences. Mais aujourd'hui, il y a différentes organisations qui travaillent à défendre les communautés indigènes à nos côtés, et nous sommes rassemblés sur une plateforme nationale appelée RETSA, Réseau pour la défense et la souveraineté alimentaire au Guatemala. Cette plateforme fait des propositions de loi, et en mai dernier, elle en a proposé une sur la biodiversité. Elle demande à respecter les semences indigènes, respecter la terre-mère et les connaissances de nos ancêtres.
Pour vous, Joaquín, c'est quoi le buen vivir? Qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, le buen vivir, c'est avant tout concrétiser la souveraineté alimentaire. C'est vraiment la base de notre vie, c'est notre ressource. Et je n'aurai pas d'autre définition que la souveraineté alimentaire, car c'est mon futur.
Joaquín Dionisio Guzmán, interrogé par Clémentine Métainier. Célina Whittaker, 60% de la population mondiale vit désormais en ville, des villes qui attirent de plus en plus de monde, mais qui nous éloignent du vivant qui nous entoure, qui nous éloigne aussi de la terre qui nous nourrit. Nous sommes loin, finalement, dans nos modes de vie, pour la plupart des humains, des racines du bien-vivre, décrites justement par Joaquín.
Oui. Alors, il faudrait peut-être reprendre juste d'où vient cette idée de buen vivir, de bien vivre. En fait, ça vient des peuples amérindiens d'Amérique latine. Ça se dit Sumac Causay en quechua, Sumac Caimana en aymara. Enfin, voilà, il y a les noms sont différents selon les langues indigènes. Et en fait, surtout, le buen vivir, en fait, c'est la vie en harmonie. C'est la recherche de l'équilibre. L'harmonie entre humains et la nature, entre le matériel et le spirituel, entre la connaissance et la sagesse. Et dans le buen vivir, la terre, c'est la terre-mère. Elle prend soin de nous en nous offrant de quoi vivre et nous devons prendre soin d'elle, comme nous devons prendre soin de nos mères. C'est surtout, en fait, ce qui m'a touchée dans le témoignage de Joaquín, c'est que, en fait, il montre comment tout ça s'organise autour de la question de la production agricole et alimentaire. Pas seulement de l'accès à l'alimentation, mais de la production agricole. Quand il parle de souveraineté alimentaire, il dit que c'est pas seulement cet accès à l'alimentation, mais le choix de modèles de production qui sont en harmonie avec la terre. Alors, il s'agit de défendre cette terre et de défendre ceux qui la travaillent dans le respect du vivant. Alors, vous parliez tout à l'heure de 60% de la population mondiale qui vit en ville. La question, c'est pas tellement que tout le monde redevienne paysan ou paysanne, mais qu'il y a à défendre les paysans et les paysannes, leur droit à la terre et surtout, en fait, des modes de production en accord avec le vivant et avec sa préservation.
Alors, ça implique de repenser complètement notre rapport au vivant, mais comment s'y prendre? Je vous propose, pour nous inspirer, d'écouter la réponse de Méthode Gunditza. Il est venu d'Afrique du Sud pour témoigner de l'importance d'écouter les savoirs autochtones pour retrouver une forme d'harmonie, justement, avec la nature et avec nous-mêmes. Il répond à Clémentine Métainier.
My name is Méthode Gunditza. I come from a community called Bikita.
Je m'appelle Méthode Gunditza. Je viens d'une communauté appelée Bikita au Zimbabwe. C'est là où je suis né et je vis actuellement en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je travaille dans une ONG appelée Earthlore Foundation.
Our name Earthlore is about how do we draw.
Notre nom Earthlore concerne la façon dont nous puisons dans les histoires et la connaissance pour comprendre la façon dont la Terre est devenu un système. Nous travaillons avec des communautés d'Afrique du Sud et du Zimbabwe pour amener le souvenir de la connaissance de systèmes globaux et de l'écosystème de la Terre. Nous disons que la Terre est une vie, le cosmos est une vie, et parce que tout est vie, la Terre parle. Elle communique, elle porte des histoires, des messages. Mais en tant qu'humains, nous avons perdu la capacité d'écouter et d'entendre ces messages parce que nous nous sommes déconnectés du système terrestre. Je vais vous donner un exemple concret de ce que nous faisons. Nous travaillons avec les communautés à faire revivre les rituels traditionnels, notamment pour faire revivre des graines locales, adaptées aux conditions locales. Quand nous faisons revivre ces graines, beaucoup d'histoires surgissent autour d'elles et on se demande à quoi elles servaient dans l'écosystème humain avant d'être oubliées. Par exemple, dans notre travail à Bikita au Zimbabwe, nous avons fait revivre le millet, qui est la graine de la région d'où je viens. C'est une zone sèche, donc le millet est extrêmement résilient. Mais sa régénérescence vient aussi de rituels. Ainsi, certaines variétés spécifiques de millet sont dépendantes de rituels. Le millet qu'on appelle Singer, par exemple, est une graine secrète qui est transportée vers un site secret afin d'accomplir des rituels. Vous devez vous demander pourquoi je vous dis tout ça et quel est le lien avec l'écologie, l'écosystème. Mais au plus profond de tout ça, ce qui se révèle avec les populations qui toutes ensemble font revivre cette mémoire est que ce que nous plantons, la nourriture que nous mangeons, est issu d'un travail collectif, nous, les êtres humains, ensemble, avec l'effort de tout le cosmos, la nature, les abeilles, tout. Tout le monde joue son rôle pour produire de la nourriture. Par exemple, dans mon village, le premier fruit que l'on cueille est offert à la terre, aux ancêtres, pour le cosmos, pour les animaux, pour que la terre et les animaux mangent avant nous. Dans une des communautés de mon pays, appelée Munsizoa, nous avions un rituel qui avait disparu depuis 40 ans. Les plus vieux, grâce à notre motivation, ont raconté les histoires du passé. C'est ce qu'on appelle le dialogue de communauté. On s'assied en cercle, les vieux, les femmes, les hommes. Même les jeunes sont présents, et les plus vieux racontent leur histoire. Et alors, on voit que, collectivement, en tant que communauté, on commence à aller de l'avant, et on se pose cette question. Comment voulons-nous que les choses soient pour nous? C'est comme ça que l'on va de l'avant, pas après pas, en faisant revivre les graines.
En France, l'harmonie avec le vivant passe entre autres par une réappropriation des outils pour cultiver dans les champs. C'est une démarche politique qui est portée par l'Atelier Paysan, une coopérative d'autoconstruction basée en Isère, dans le sud-est du pays. Thomas Borel est salarié et sociétaire de l'Atelier Paysan. Il en explique le principe à Clémentine Métainier.
L'atelier paysan, c'est quelque part colporter des savoirs et des savoir-faire paysans. Alors, généralement, à l'international, il y a une tendance à évoquer la question des pratiques traditionnelles, des savoirs traditionnels. C'est un terme qui véhicule un imaginaire dont il faut se méfier. Souvent, la question, quelque part, d'un certain archaïsme, et quand on l'applique à la France, on voit bien que tout de suite, on va opposer ça à une notion de modernité agricole qui passerait par la mécanisation, le recours à des intrants, des engrais de synthèse, etc. En fait, nous, on parle beaucoup plus d'innovation paysanne. C'est des innovations portées par et pour les paysans et paysannes. Et donc, depuis 10 ans, l'atelier paysan accompagne ce travail d'innovation, c'est-à-dire accompagne un travail d'autoconstruction de matériel, mais aussi de mise au point de ce matériel pour, en fonction des besoins des paysans et des paysannes. Mais nous accompagnons, nous ne proposons pas une solution toute faite. Donc c'est une recherche-développement participative ascendante. Et puis nous formons des paysannes et paysans à la fois à construire leurs outils, à les adapter, à les réparer et à lire les plans qui peuvent être mis à disposition puisque nous faisons circuler ce savoir. C'est l'idée même de l'atelier paysan.
Dans une dynamique aussi de réappropriation des savoir-faire déjà existants.
Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans un projet politique qui est un projet qui est celui de l'agroécologie paysanne, c'est-à-dire des pratiques agroécologiques et qui implique une forte dimension humaine, le fait qu'on maintienne une paysannerie et non pas qu'on concentre du foncier et des moyens de production aux mains de quelques agri-managers. Et donc avec une notion forte d'autonomie qui est forcément collective, qui est l'autonomie de communautés de paysans et de paysannes qui se regroupent face à un problème qu'ils et elles identifient par rapport à leur outil de production et donc qui cherchent à développer le matériel adapté pour ça et qui ensuite échangent sur leurs pratiques. Et on a finalement des outils qui sont en apparence simples de conception, facile à fabriquer quand on sait souder et lire un plan, mais qui correspondent à des pratiques extrêmement sophistiquées. Et un savoir, là encore, pour renvoyer par rapport à l'idée de savoir traditionnel, en fait un savoir qui mêle de l'empirique, mais aussi toutes les avancées scientifiques en termes de connaissances agronomiques. Et c'est l'inverse de ce que propose le modèle agro-industriel, qui est des machines extrêmement sophistiquées, pour des pratiques qui sont extrêmement simplifiées, où on enferme dans des algorithmes une partie du savoir et où finalement on transforme les paysans en des opérateurs de machines au service d'un modèle alimentaire qui en plus ne fonctionne pas. Donc effectivement, l'atelier paysan s'inscrit dans ce mouvement politique et utilise aussi tout la dynamique qu'il porte d'autoconstruction pour essayer de peser dans un rapport de force face au complexe agro-industriel qui promeut une alimentation et une agriculture de plus en plus standardisée et aux mains de capitaux et d'intérêts de plus en plus puissants.
Les acteurs qu'on rencontre ici, entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, voire même l'Asie, abordent beaucoup cette notion de communauté, c'est-à-dire se réapproprier les savoirs, transmettre en tout cas les rites ou en tout cas même tout simplement les pratiques agroécologiques pour des communautés, pour promouvoir les droits des peuples, etc. Comment ça nous parle, nous, ici en France ?
Ça peut nous parler notamment au travers de l'idée des communs, c'est-à-dire qu'en fait on a une communauté d'usagers, d'usagères que sont les paysans et les paysannes par rapport à un savoir-faire, encore une fois, qui se mettent en circulation ce savoir, qui le colportent et qui forment de fait une communauté. Simplement, ça n'est pas une communauté refermée sur un critère identitaire, mais de la même manière à l'international, il faudrait absolument pas le voir de cette manière-là. C'est des gens qui en fait trouvent dans le collectif, dans le commun, la force de créer des choses ensemble et d'avancer ensemble. Et c'est effectivement exactement la même chose qu'on peut avoir ici en France qu'à l'international, à condition de se départir de certaines lunettes coloniales qui voudraient voir les communautés autochtones dans certains autres pays comme quelque chose de sympathique et quelque part de divertissant. On n'est absolument pas là-dedans, on est dans une notion et une idée du commun qui est politique, qui est basé sur la coopération dans un groupe au service d'un projet politique partagé.
Thomas Borel de l'atelier paysan dans C'est pas du vent. Célina Whittaker, ces deux témoignages qui ont donc été entendus au Forum du bien vivre à Grenoble nous incitent à repenser notre lien avec la nature et on comprend bien que pour bien vivre, nous les humains finalement, nous devons la respecter.
Oui, nous devons plus que la respecter, en fait. Pour moi, le témoignage de méthode nous montre bien qu'il faut qu'on revoie complètement notre manière de nous relationner à la nature, notre lien à la nature. En fait, c'est un peu l'idée que la nature n'est pas extérieure à nous, que nous faisons partie de la nature. Et je voudrais juste, pour faire le lien avec Thomas Borel et l'Atelier Paysan, vous rappeler Descartes. Descartes, le grand penseur de la modernité occidentale quand même, qui disait en fait que la science moderne devrait nous permettre de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et c'est bien ça ce qu'il faut changer. Nous ne sommes pas maîtres de la nature, nous sommes partie de la nature. Pour moi, méthode, il dit ça. Et dans la recherche des savoirs ancestraux, il recherche ce qui est bon pour la nature et ce qui est bon pour les humains. Et c'est intéressant de faire le lien avec ce que nous raconte Thomas Borel, parce que avec cette recherche en fait d'outils adaptés, en fait, pour moi, ils sont dans l'idée de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut penser un monde à la juste mesure? Comment est-ce qu'on peut reprendre la maîtrise de la technique pour sortir de la course effrénée au toujours plus grand, etc. et d'utiliser les savoirs techniques, en fait, les savoirs qu'on a, la connaissance scientifique, en la croisant avec les avancées des gens pour trouver, en fait, et imaginer des outils à hauteur d'humain et de la nature. En quelque sorte, pour moi, l'Atelier Paysan, c'est une belle tentative de combiner modernité et respect des humains et de la nature.
On voit bien en tout cas que la société de consommation et ses mirages sont incompatibles, eux, avec un monde juste et durable. Heureusement, cette vision d'une autre planète et d'habiter la planète ensemble commence à faire son chemin partout dans le monde et notamment chez les jeunes. Nous en parlons juste après Pombi, Bundu Boys, dans C'est pas du vent sur RFI.
Sure, and
Boys par le Zimbabwéen Pombi dans C'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous parlons du Forum international pour le bien-vivre qui vient d'avoir lieu à Grenoble dans le sud-est de la France aujourd'hui avec notre invitée Célina Whittaker qui a été responsable, un lourd travail de la programmation de ce riche forum. Vous êtes aussi coprésidente de FAIR, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Il y avait beaucoup de jeunes, Célina Whittaker, à ce forum, notamment les jeunes de Youth Environment Europe qui est un mouvement qui réunit de plus en plus de jeunes en Europe, mais c'est un mouvement que l'on voit un peu partout dans le monde. Les jeunes se réveillent.
Les jeunes se réveillent partout. Et avec cette urgence, en fait, de la question environnementale qui leur dit il faut qu'on se bouge maintenant et il faut que tout le monde se bouge. Ils ont un rôle important, je pense, aujourd'hui dans notre société. Et on voit aujourd'hui, pour parler de la France, de ce mouvement qui est en train d'émerger de la désertion, de la bifurcation, quels que soient les termes qu'on utilise, c'est quand même tout ce mouvement des grandes écoles qui disent on ne veut plus travailler pour le système tel qu'il est, on ne veut plus aller dans le sens de ce système néolibéral, de la croissance et du beaucoup pour quelques-uns et du très peu pour la plupart. Donc c'était bien d'avoir beaucoup d'avoir ces jeunes au forum et d'écouter en fait ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire l'urgence du changement.
Alors le magazine Reporter fait toute une série cette semaine, magazine en ligne sur internet, sur ce qu'on appelle la grande désertion, parce que par exemple dans le monde occidental, il y a des millions de personnes qui quittent leur travail, c'est l'offensive néolibérale, la catastrophe écologique, la pandémie ont attisé cette fugue massive, c'est extrêmement impressionnant en termes de chiffres.
C'est tout à fait impressionnant et c'est important de rappeler la période du Covid parce que le Covid avec cet arrêt, la pandémie et le confinement qui nous a obligés à tout arrêter a bien montré qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui n'était pas, a bien mis en évidence quels étaient les métiers nécessaires et les métiers qui étaient peut-être moins nécessaires. Et ça montre bien la nécessité de cette bifurcation. Et ça montre, en fait, je pense que la pandémie montre aussi, parce que les gens se sont mis en mouvement, tout comme ces jeunes se mettent en mouvement, ça montre aussi cette volonté de la société de changer les choses. J'aimerais faire un petit parallèle quand même avec la question du droit des femmes et en particulier la question de l'avortement. À l'époque, Miguel Benassayag, qui est un philosophe argentin, il raconte bien comment à un certain moment, il y a eu une volonté politique de Simone Veil de montrer en fait la voie et de proposer une loi pour l'avortement, mais elle n'a pu le faire que parce que la société était prête et surtout les femmes, les principales concernées, le vivaient déjà, étaient déjà en mouvement dans ce sens-là. Et en fait, on se retrouve, je pense, avec une situation un peu similaire maintenant, c'est-à-dire en fait il y a la société qui se mobilise pour un changement de cap.
Et pour le philosophe Patrick Vivray que vous connaissez bien Célina Whittaker, cette période n'est pas pour lui une transition de notre société, c'est vraiment une métamorphose, on l'écoute.
Moi, je préfère le terme de métamorphose à celui de transition, parce qu'il indique bien que confronté à des mutations considérables, très souvent, le premier mouvement des sociétés, c'est un mouvement de repli, de recroquevillement sur l'existant. Alors, il y a aussi les logiques d'intérêt économique, de lobbying qu'on connaît bien. Mais il y a aussi ce phénomène qui, si on prend la métaphore célèbre de la métamorphose du papillon, du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin de son monde. Et il faut qu'à un moment donné, le désir du papillon soit plus fort que la peur de la chenille. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les cellules imaginales. Et la multiplication des cellules imaginales dans une société, donc toutes les activités créatrices, mais aussi les imaginaires positifs, sont déterminants pour surmonter les peurs qui sont liées au fait que, oui, on est dans des mutations absolument inouïes par leur importance et par leur interconnexion. On a le dérèglement climatique, on a les risques de sixième extinction de la biodiversité, on a la question sanitaire avec les risques de pandémie, on a la question des guerres civiles, des guerres internationales, etc. Donc il faut pouvoir être complètement lucide sur ces risques de régression, de récession, et pour autant de les inscrire dans une perspective qui est celle justement d'une métamorphose dont l'objet est au fond que l'humanité devienne pour de bon sapiens sapiens. Parce qu'on dit nous sommes des sapiens sapiens, comme dit Edgar Morin, on aurait mieux fait de nous appeler sapiens démins, tant la partie des mesures, folie, destruction est importante. Mais à défaut d'être une origine, sapiens sapiens, ça peut être, ça doit être un projet. Parce que nous avons besoin à la fois de mobiliser le premier sapiens, celui de l'intelligence, mais là d'une intelligence créatrice et coopérative, parce qu'une intelligence destructrice, bah, ça donne des armes de destruction massive, et c'est pas ça qui nous fait avancer. Et le deuxième sapiens, c'est le sapiens de la sagesse. Mais la sagesse, il faut l'entendre là aussi dans son sens fort, qui est celui de saveur. Hein. L'origine du mot sagesse, sapiens, c'est sapere en latin. Donc c'est une dégustation, donc c'est du bien vivre la sagesse. Ce n'est pas une sagesse triste, ascétique ou sacrificielle. Et là, ça c'est un enjeu passionnant pour les humains dans la longue histoire de l'hominisation qui remonte à plusieurs millions d'années. Nous sommes maintenant rentrés dans la phase de l'humanisation. Donc, comment l'humanité devient plus humaine et comment elle comprend aussi qu'elle ne peut être plus humaine qu'en acceptant complètement d'être intégrée dans le cycle du vivant, de ne pas être ni prédatrice ni même dominatrice, et d'autre part de comprendre que ce qui fait son originalité, c'est-à-dire par exemple la conscience réflexive, doit être mise au service, cette conscience, d'une qualité de responsabilité écologique, de justice sociale, de démocratie, etc. Ça, c'est, pour le coup, c'est une aventure passionnante. C'est une aventure difficile, mais c'est une aventure passionnante, à mon avis, en tout cas, qui, ça mérite le détour de vivre une période historique telle que la nôtre.
Clairement, ça mérite le détour. Patrick Vivray dans C'est pas du vent sur RFI. Célina Whittaker, est-ce que vous pensez, comme Patrick Vivray, que nous vivons une période historique, un moment clé pour notre civilisation ?
Oui, tout à fait. C'est une véritable métamorphose. Et Patrick Vivray a bien raison de dire que cette métamorphose, elle est liée en fait à l'encastrement de l'humain avec la nature. Et pour finir, ou en tout cas pour donner un exemple, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on a déjà vécu des moments comme ça dans l'histoire, des moments en fait où il s'agissait en fait de se battre pour avoir des droits. On peut citer tout simplement en fait la fin de l'esclavage et la reconnaissance des droits de tous les humains, la fin du travail des enfants et la reconnaissance des droits des enfants, la question des droits des femmes. Et donc on voit bien, on est bien dans cette période qui est compliquée en fait, parce qu'on est dans une période de changement de façon de regarder le monde, de se dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui compte. Mais c'est essentiel et c'est extrêmement motivant.
Voilà, c'est très enthousiasmant. Alors, pour en savoir plus, vous trouverez plein de ressources sur le site capbienvivre.org. Merci Célina Whittaker d'être passée dans C'est pas du vent.
Merci à vous.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, bien entendu, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire. Nous adorons vous lire. C'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.